Eterno Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu.
Ça commence fort pour la rentrée, dis donc. Hein. Oh là ! Quelle radicalité ! C'était étonnant, Jésus qui est si bon. Jésus qui est si doux, humble, qui est tellement radical dans des pages comme celle-ci. Vous avez bien entendu, mais je ne peux pas ne pas le répéter, celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Jules va être baptisé dans quelques instants. Et vous, Marianne, vous demandez aussi le baptême, vous êtes la maman de Jules, vous faites partie des catéchumènes de la paroisse qui seront probablement baptisés dans les mois qui viennent. Jules, il ne se rend compte de rien, évidemment. Vous, vous vous rendez compte, avec Charles-Henri, son papa, et puis son parrain, sa marraine. Et nous tous qui sommes baptisés depuis longtemps, est-ce que nous prenons conscience de la radicalité de ce que Jésus nous demande, nous propose ? Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Il y a quelque chose d'absolu dans cet appel au baptême. Un appel radical. Il faut faire de la place au Christ. C'est-à-dire, si le baptême, c'est vivre d'une autre vie, vivre non plus d'une vie humaine, mais vivre de la vie même de Dieu, jusqu'à ce que saint Paul crie comme un cri de victoire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais pour que le Christ puisse vivre en moi, il faut qu'il y ait de la place en moi. Pour faire de la place en moi, dans mon cœur, dans ma vie, eh bien, il faut bien que je fasse de la place, c'est-à-dire que je renonce à ce qui l'occupe d'habitude. Alors, ou bien on voit d'abord le renoncement en premier. Il y a quelque chose qui est trop dur, et puis surtout, nous risquons de voir la religion comme quelque chose de négatif, d'angoissant même. C'est un peu rébarbatif quand même. Le renoncement en premier, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'amour. L'amour agit par attirance, jamais par contrainte. Et justement, c'est ça le secret. C'est que le Christ exerce une telle attraction sur notre vie, sur nous-mêmes. Nous sommes tellement attirés par le Christ que tout le reste nous paraît comme des balayures, dirait saint Paul. J'ai considéré tout le reste comme des déchets à côté du seul bien qui m'intéresse désormais. La connaissance de Jésus-Christ, l'amour de Jésus, c'est la même chose. Connaître Jésus, aimer Jésus, c'est la même chose, puisque Jésus, c'est l'amour, le visage de l'amour. Jésus est le visage du Père. L'amour agit par attirance. Et si nous ne sommes pas attirés, c'est que nous ne sommes pas assez proches. comme quand le soleil se cache, on ne voit plus la lumière, et on risque de croire que, à force, le soleil n'existe plus. Mais si le soleil existe, il faut s'en rapprocher. Il faut se mettre au grand air. Il faut s'exposer au Seigneur, il faut s'exposer à son amour. S'exposer à son amour, c'est le fréquenter. S'exposer à son amour, c'est apprendre à découvrir sa parole, à aimer sa parole, puisque c'est la parole d'amour par excellence, cette parole qui nous fait exister. Et puis, on peut penser aussi, et ça nous aide, que le premier qui a renoncé à tout, c'est Jésus lui-même. Jésus, qui était de condition divine, n'a pas revendiqué ce rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur, en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour suivre le Christ? C'est bien simple, il faut aller jusqu'au bout, ou alors ce n'est pas la peine de partir. Et c'est ce que Jésus dit dans ces petites paraboles qui sont au centre de l'évangile que nous avons lu. Il y a un petit calcul à faire, il y a une décision à prendre. Celui qui décide de construire une tour, est-ce qu'il a les moyens d'aller jusqu'au bout? Sinon tout le monde va se moquer, il a commencé à poser les fondations qu'il n'a pas pu achever. Ou bien si je décide d'aller en guerre contre un autre roi, il faut que je voie si concrètement mes forces me permettent de battre le roi que je vais combattre. Sinon il vaut mieux renoncer et puis faire la paix tout de suite. Bien de la même manière, quand je m'engage vers le baptême, est-ce que je suis vraiment décidé à aller jusqu'au bout? Je ne peux pas, au moment même du baptême, avoir renoncé à tout. C'est un renoncement qui se fera progressivement. J'entre peu à peu dans la vie du baptême. Chaque fois que je bénis un anniversaire de mariage, je dis « Je vous bénis, vous qui avez commencé à vous marier depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 40 ans. » Moi, j'ai commencé à être baptisé il y a 66 ans. Mais c'est quelque chose de progressif. J'entre peu à peu et j'espère tous les jours un peu plus dans la vie de baptisé, dans la vie du baptême, pour être chaque jour un peu plus fidèle aux promesses de mon baptême que Marie-Anne et Charles-Henri, ainsi que Armand et Julia, vous allez faire pour Jules. Et puis quand Jules aura l'âge de raison, quand Jules aura la capacité suffisante pour le faire, il prendra sa décision lui-même pour décider de croire en Dieu, décider de croire en Jésus, et prendre à son compte, à lui, les promesses de son baptême. Le baptême constitue finalement des liens nouveaux, c'est-à-dire une vie nouvelle, mais une vie nouvelle qui nous fait frères et sœurs les uns des autres. Nous entrons dans la famille des enfants de Dieu. C'est ça l'Église. L'Église, c'est ceux qui vivent de la vie même du Christ. Et les liens qui nous lient dans l'Église sont plus forts que les liens du sang, de la famille. Par l'Eucharistie, c'est le sang du Christ qui coule dans nos veines. Et nous sommes parcourus par le même sang. Nous vivons du même sang, de la même vie. C'est la raison pour laquelle Jésus dit qu'il faut aimer Jésus d'un amour supérieur, infiniment supérieur à l'amour que nous avons même pour nos parents, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour ce qui nous est le plus cher. Parce que les liens de la foi, les liens de l'Eucharistie, font que nous sommes liés les uns aux autres par un lien unique, un lien divin. Il n'y a plus homme ni femme, dira saint Paul encore, il n'y a plus juif ou grec, il n'y a plus noir ou blanc, il n'y a plus les esclaves ou les hommes libres, il n'y a plus qu'un seul homme nouveau dans le Christ. Il n'y a plus que ces liens uniques qui font de nous des frères, des sœurs en Jésus. Est-ce que nous sommes réellement convaincus de cela? Au-delà des atomes crochus ou des préférences humaines, au-delà des attirances ou des réticences que nous pouvons avoir, nous autres, baptisés, qui sommes dans cette Église, nous faisons partie de la même famille, mais au sens fort, même si nous ne nous connaissons pas. Et c'est là qu'elle est intéressante, cette petite histoire d'Onésime. C'est étonnant que la Bible ait retenu cette épître à Philémon. Même pas une page dans la Bible. Même pas une page. C'est tout bref. Onésime, c'est un esclave. L'esclave qui appartenait à Philémon, qui s'est échappé. C'est pas bien. Quand on est esclave, c'est pas bien de s'échapper. Il a fui, puis il a fini par atterrir chez saint Paul, tant et si bien qu'il a fini par découvrir le Christ, et saint Paul l'a baptisé. Il fait partie maintenant des enfants de Dieu. Et alors, Paul le renvoie à Philémon, son propriétaire, n'ayant pas peur des mots, puisque c'est la réalité de l'époque. Mais en disant à Philémon, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Je te le renvoie, bien que moi je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, parce qu'il pourrait me rendre grand service, et puis c'est un frère. À toi maintenant de savoir si tu veux l'accueillir de nouveau comme un esclave, mais auquel cas tu ne serais pas fidèle toi-même aux promesses de ton baptême, ou bien tu l'accueilleras désormais comme un frère, comme si tu m'accueillais moi-même. Et les liens qui te lieront à Onésime ne seront plus des liens de propriété, mais des liens de vie, des liens de charité, infiniment plus forts, infiniment plus profonds. Pour entrer dans cette grâce du baptême, il faut l'humilité. C'est ce que voulait nous dire la première lecture. Qui a connu la pensée du Seigneur, dirait le psaume. Qui peut découvrir les intentions de Dieu, disait la sagesse tout à l'heure. Qui peut comprendre ses volontés. Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées sont instables. Dieu est infiniment au-delà de ce que nous pensons. Ses chemins sont infiniment au-delà de nos chemins. Ses pensées au-delà de nos pensées. Qui peut connaître le cœur de Dieu? Il est transcendant. Transcendant, c'est-à-dire tout autre. Et nous, nous sommes tout petits devant lui. Mais tout petits que nous sommes, il nous hisse à sa hauteur divine, puisque désormais nous vivons de sa propre vie et il nous regarde comme des amis. C'est lui, Dieu, qui pourrait nous regarder comme des serviteurs et bien pire encore que des esclaves. Mais Dieu nous a libérés et fait de nous des frères et des sœurs. Il fait de nous des amis. « Je ne vous appelle plus serviteurs, » dit Jésus à ses apôtres, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. « Je vous appelle désormais mes amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous ai introduit dans les secrets de Dieu. » Humainement, vous ne pouvez pas connaître les secrets de Dieu. Je vous les ai révélés. Je vous ai ouvert ce trésor. Qui peut comprendre? Personne. Pas même Marie. Vous rappelez le jour où Jésus avait disparu, Marie l'a cherché pendant 3 jours avec Joseph, qu'il le retrouve au temple. L'Évangile précise, et c'est heureux, ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Nous non plus, il ne faut pas que nous prétendions comprendre tout, bien sûr. Nous ne comprenons pas l'essentiel. Mais nous savons une chose, nous croyons une chose, c'est que l'amour de Dieu est au-delà de tout, qu'il veut tout pour notre bien, qu'il veut tout pour notre épanouissement, qu'il veut tout pour notre bonheur. C'est un principe de fond, c'est un principe absolu. C'est là-dessus que tout est basé. Je ne comprends pas ce qu'il fait, je ne comprends pas même les épreuves que je peux traverser, je ne comprends pas les difficultés que je peux connaître dans ma vie. Mais je sais une chose, c'est que à travers ces difficultés, à travers ces épreuves, à travers ces souffrances, Dieu veut mon bonheur et mon épanouissement. Il me conduit par des chemins que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Mais ou bien j'essaye d'écarter les croix et les souffrances et les difficultés. Bien sûr, il faut. Il ne faut pas chercher les souffrances pour elles-mêmes, ce serait terrible, ce serait masochiste et pas du tout chrétien. Il y a des choses que je ne peux pas éviter. Parce que à les éviter, je risque bien d'éviter aussi les rendez-vous que Dieu me fixe à travers telle épreuve, à travers telle souffrance. Qui d'entre nous n'a pas déjà expérimenté qu'il a rencontré Dieu d'une façon nouvelle, d'une façon infiniment plus profonde? À vouloir écarter tout ce qui nous gêne, nous risquons bien de manquer le rendez-vous essentiel. Nous risquons bien de manquer la connaissance de Dieu et de son amour. Alors j'ai envie de reprendre ce psaume 89 que nous avons chanté. Et je nous propose à tous, peut-être, pourquoi pas, de rechanter ce psaume dans la semaine. Apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure de nos jours. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Qu'il est beau ce psaume. Il faudrait le goûter goutte à goutte, miette par miette, le méditer longuement cette semaine pour nous convaincre, nous rassurer de l'amour inconditionnel de Dieu auquel nous voulons répondre de tout notre cœur. C'est cet enthousiasme contagieux que nous voudrions transmettre à notre tour. Marie, disciple modèle, disciple exemplaire de Jésus, nous enseigne à devenir nous-mêmes disciples du Seigneur, pour que, à notre tour, nous puissions attirer nos compatriotes, nos concitoyens, nos contemporains. Qui fera connaître l'amour de Dieu, sinon nous qui sommes chrétiens? Qui fera connaître l'amour inconditionnel de Dieu si nous-mêmes n'en vivons pas et n'en sommes pas persuadés? Suivons donc les chemins du Seigneur, quoi qu'il nous en coûte, c'est le rendez-vous du bonheur et c'est aussi notre mission, une mission prioritaire, absolument nécessaire dans notre monde qui ne connaît pas Dieu. Amen.